Bonjour. Alors, nous continuons aujourd'hui notre parcours au travers des psaumes. Et à nouveau, aujourd'hui, c'est un psaume que certains d'entre vous connaissent certainement bien, que nous allons aborder. Il s'agit du psaume 95. Alors, je vous propose de le lire ensemble. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est la terre, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Meriba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors: c'est un peuple qui s'égare et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment: ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, je pense qu'à la lecture de ce psaume, certaines expressions, certains versets ont peut-être résonné dans votre mémoire. Nous sommes le peuple de son pâturage. Ou encore, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ils font partie de ces versets que l'on a souvent entendus, sans forcément se rappeler d'où il venait. Alors, dans ce psaume, nous allons voir qu'il y a 3 appels principaux. Tout d'abord, un appel à adorer Dieu, que l'on a pu voir dans les premiers versets. Ensuite, un appel à reconnaître la souveraineté de Dieu, au travers de l'épisode de Massa et Meriba. Et enfin, un appel au repos. Alors, je précise tout de suite pour ceux qui auraient les paupières un peu lourdes, que l'appel au repos, c'est pas un appel à s'endormir, hein, que les choses soient claires. Alors, comme on a pu le voir les dimanches des mois passés, les psaumes sont un véritable appel à louer Dieu. Je vous invite à cet effet à vous rappeler de la prédication de la semaine dernière que Luc nous a apportée. Mais ce psaume 95 fait partie de cette catégorie-là, des psaumes qui nous appellent à louer Dieu. Il nous invite à crier notre joie, à acclamer en musique, à nous prosterner devant Dieu, à lui adresser des prières de reconnaissance. Et contrairement au psaume 150 de dimanche passé, l'auteur nous donne ici quelques raisons de le faire. Notre louange, nos acclamations sont destinées à notre Dieu. Sa personne même est la raison de notre louange, de notre joie. Et plusieurs aspects dans ce psaume nous décrivent cette personne et ils peuvent nous amener à la louange. Tout d'abord, il est l'Éternel au verset 1. Depuis toujours et pour l'éternité, il existe. Il se définit lui-même comme celui qui est. Il n'y a pas de limite de temps à son existence. Il est décrit également comme le rocher de notre salut, toujours au verset 1. Cela nous évoque un lieu solide, stable, inébranlable, un endroit où on peut se réfugier, un endroit sur lequel on peut compter en cas de danger. Une autre facette, c'est que notre Dieu est également le grand roi, au-dessus de tous les dieux, au verset 3. Il règne sur toute chose, il est souverain. Il est au-dessus de tout ce que n'importe quel humain pourrait considérer faussement comme Dieu. On voit ensuite au verset 7 que il est notre berger. Nous avions parlé lors de notre parcours dans le psaume 23, il y a quelques mois. Cette image nous inspire la confiance, le soin que Dieu a pour son peuple, son troupeau. Il procure nourriture et repos, direction et sécurité. Nous sommes également appelés à l'acclamer car il maîtrise toutes choses. En tant que créateur, tout lui appartient. La mer et le continent, les sommets des montagnes et les profondeurs de la terre. Il a tout créé, tout façonné de ses mains. Tout ce qui nous entoure a été voulu par lui. Et plus important encore, il ne s'est pas contenté de créer. Le texte nous dit au verset 4 qu'il tient dans sa main toute sa création. Il est présent, aujourd'hui encore. Il est toujours ce souffle de vie. Et ce que ce psaume nous rappelle également, c'est qu'il n'a pas seulement créé ce beau monde qui nous entoure, mais on peut lire au verset 6, Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Oui, c'est Dieu qui nous a créés. Il a voulu de nous et c'est là encore une raison pour l'adorer. Comment le faire? Alors ce psaume nous invite à le faire en musique, par la prière, comme nous avons pu le faire tout à l'heure. Mais ce psaume n'a pas de préambule nous disant à lire et à mettre en œuvre seulement s'il y a eu au moins 4 anniversaires dans la communauté la semaine passée. C'est notre vie entière que nous sommes appelés à adorer l'Éternel. Au réveil, au coucher, dans notre quotidien, nous passerons certainement pour fous si nous nous mettons à crier notre joie au milieu d'un supermarché, ou si nous nous prosternons lors de nos randonnées ou sur notre lieu de travail. Mais acclamer et prier, nous pouvons le faire certainement intérieurement, en tout temps, en tout lieu, pas uniquement le dimanche matin ici. Et ce psaume nous invite à cela. Notre Dieu est l'Éternel, le rocher de notre salut, le grand roi, notre berger. Il l'est ici et maintenant, mais également demain et toute la semaine. Il ne change pas. C'est simplement parfois nous qui y prêtons plus ou moins attention. Mais ce psaume ne s'arrête pas là, sur cet appel à la louange. Il y a une seconde partie qui détonne un peu. Je vous propose de la relire. Tu veux afficher à partir du verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas, comme à Meriba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'ont défié voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple qui s'égare et qui ne fait aucun cas des voies que je lui ai prescrites. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. Quel contraste! Après la joie qui transparaissait dans les premiers versets, nous sommes désormais dans un contexte bien plus sombre. On y voit Dieu lui-même s'exprimer, et pas dans des termes tout à fait réjouissants. Il nous parle de dégoût, de colère. L'histoire de l'incident de Massa et Meriba nous est racontée en Exode 17. Le peuple vient d'être miraculeusement libéré de l'esclavage en Égypte. Et il est sur la route de la terre promise. Je lis en Exode 17. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Refidim où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel ?» L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Meriba, c'est-à-dire épreuve et querelle, parce que les Israélites avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ?» Cet incident nous raconte donc le bras de fer engagé entre Dieu et son peuple. Le peuple refuse de s'attendre à l'intervention de Dieu. La patience et la foi ne sont pas au rendez-vous. Le peuple ne veut pas simplement laisser Dieu agir, comme et quand il veut. Non, le peuple est rempli d'impatience. Il force Dieu à agir selon ses propres désirs. Ils avaient pourtant vu, dans les semaines passées, ils en avaient eu la preuve, que Dieu prend soin d'eux en les délivrant de l'esclavage en Égypte. Mais cela ne suffisait pas. Il leur fallait à boire ici et maintenant. Et c'est un risque qui nous guette aussi, mettre en avant nos propres désirs, notre calendrier. Alors que l'on connaît notre Dieu, comme on a pu le voir au début de ce psaume, il est tout puissant, c'est un bon berger, un roc solide. Mais nous souhaitons parfois le forcer à agir, à intervenir comme nous le voulons, au lieu de soumettre notre volonté à la sienne. N'oublions pas qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. Il veille sur nous, y compris dans les circonstances difficiles de vie que nous pouvons rencontrer et que nous ne comprenons pas forcément. Maladie, deuil, chômage, difficulté au travail. Bien sûr, nous pouvons exprimer à Dieu nos désirs par la prière, mais prenons garde à ne pas empiéter sur ses prérogatives. N'essayons pas de lui forcer la main et reconnaissons sa souveraineté en tout temps et toutes circonstances. Que ce puisse être sa volonté et non la nôtre. Alors un point qu'il est important de rappeler ici, c'est que la colère de Dieu vis-à-vis du peuple n'est pas sans raison. C'est en fait l'incrédulité du peuple qui les a détournés de Dieu. Ceux qui se sont révoltés contre Dieu, ce sont les mêmes qui avaient été libérés d'Égypte. Ils connaissaient Dieu et ce qu'il est en mesure de faire, et pourtant c'est eux qui, à l'entrée du, c'est à ces personnes-là que l'entrée du pays promis est refusée. Ce sont eux qui ont eu peur. Ce sont eux qui ont eux-mêmes refusé d'y entrer après y avoir envoyé des espions. La punition n'est pas disproportionnée. Elle est la conséquence de leur attitude, de leur rejet de la souveraineté de Dieu. Alors cette seconde partie du psaume nous rappelle à quel point prendre au sérieux la souveraineté de Dieu est important. Aller selon nos propres désirs ou nos propres peurs peut avoir des conséquences graves. Mais cette seconde partie est avant tout une illustration de la phrase centrale de ce psaume. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Elle nous montre qu'il est toujours possible de revenir à Dieu. L'incident de Massa et Meriba nous montre quelles peuvent en être les conséquences lorsque l'on endurcit nos cœurs. Mais cet appel, il est pour aujourd'hui. Étymologiquement, aujourd'hui, ça veut dire le jour de ce jour. Enfin, maintenant, quoi. Chaque fois qu'on le lit, c'est actuel. C'est le présent. Mon père, un jour, avait reçu un t-shirt avec un dessin d'Obélix dévorant un sanglier. Et la bulle à côté disait « Demain, je commence mon régime ». Je vous assure que mon père s'est toujours servi de ce t-shirt pour repousser au lendemain le fait de commencer son régime, et il l'a jamais encore commencé. Mais la question n'est pas demain, maintenant, qui est toujours dans le futur. Là, on nous parle d'aujourd'hui, qui est toujours le présent. C'est toujours possible, maintenant. Il est toujours possible de revenir à Dieu. Et comment Dieu nous appelle-t-il à revenir à lui, à le louer, à reconnaître sa souveraineté? Il le fait au travers de sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Du temps des psaumes, Dieu parlait à son peuple au travers de prophètes. En Deutéronome, on peut lire ce passage « Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. » On en discutait hier avec quelques-uns. Prophète, c'était un métier à risque à l'époque. S'il annonçait quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, il était tout simplement mis à mort. Mais c'était cependant le moyen employé par Dieu pour parler à son peuple, pour l'encourager, pour le reprendre parfois aussi, pour le guider, pour l'éclairer. Dans les premiers versets de la lettre aux Hébreux, on peut lire « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ est le prophète parfait, dans le sens où, étant Dieu parmi les hommes, c'est lui qui accomplit parfaitement cette œuvre de nous transmettre fidèlement la volonté de Dieu. Il est digne de confiance. Il est aussi la réponse à la question que se posait le peuple d'Israël à Massa et Meriba. L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ? Oui, l'Éternel est au milieu de nous. C'est ce que les prophètes avaient annoncé et que l'ange a ensuite annoncé à Joseph. On peut lire en Matthieu « Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Ainsi, pour nous aujourd'hui, ce verset « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur » se réfère à l'appel que nous avons à écouter Christ, à croire que Dieu nous accorde le pardon grâce à sa mort, à croire en sa résurrection qui nous offre l'espérance. C'est un appel qui nous est adressé aujourd'hui encore à être ses disciples, à lui faire confiance. Alors, l'écoutons-nous? Y sommes-nous attentifs? Parfois, lorsque j'ai trop de choses en tête et que je souhaite faire une pause, je prends ma paire d'écouteurs, je la mets dans mes oreilles, un clic, je démarre la musique que j'apprécie, je monte un peu le volume et je suis coupé du monde. Je n'entends plus rien, je ne pense plus à rien, c'est radical. Je me mets dans ma bulle. Avec Dieu, c'est facile aussi de nous mettre dans notre bulle. Il peut nous arriver de réduire ou supprimer notre temps de culte personnel, lire uniquement les passages de la Bible que l'on apprécie, écouter d'une oreille distraite les frères et sœurs de l'Église qui auraient quelque chose à nous apporter, ou parfois tout simplement, consciemment ou inconsciemment, se surcharger d'activités. Nous sommes alors imperméables à ce que Dieu aurait à nous dire. Cependant, à tout âge, Dieu souhaite nous faire grandir, nous accompagner dans nos difficultés et malgré nos échecs. Il veut nous aider à progresser dans la sanctification. Nous sommes donc invités par ce psaume à reconnaître la souveraineté de Dieu, à adapter nos désirs aux siens et non l'inverse. Et pour cela, nous devons être prêts à l'écouter, mieux le connaître, pour plus lui faire confiance. Quelles sont alors les bénédictions alors à reconnaître cette souveraineté de Dieu? Ce psaume nous parle d'un lieu de repos, un lieu de repos que Dieu a prévu pour nous. Et nous sommes invités à rejoindre Dieu dans ce lieu de repos. Ce repos, nous l'aurons pleinement et parfaitement lorsqu'après notre mort, nous participerons à la nouvelle création pour l'éternité. Nous vivrons ce repos dans la présence et la proximité constante de Dieu. Ce sera là un repos parfait. Mais dès maintenant, Dieu nous offre déjà de vivre partiellement ce repos. Méditons sur l'œuvre de Christ, louons Dieu, adorons-le, remercions-le. Reconnaissons notre Dieu comme l'Éternel, le grand roi, au-dessus des autres dieux. Reconnaissons-le comme notre berger, comme le créateur du ciel et de la terre, comme notre créateur. Découvrons ou redécouvrons ses désirs pour nous. Le repos est dans ses plans. Amen.